One, two, three, four.
I thought he'd never leave.
Well, I'm a little dinosaur. I'm a little dinosaur. I'm a little dinosaur, but I'm planning to go away.
Matoshi, Toy Boy, bonsoir. Mmh. Vous écoutez Canal Sud 92.2. C'est l'heure des bébés dinosaures. Les bébés dinosaures qui tentent depuis déjà quelques années de roucouler, de gazouiller, comme le faisaient sans doute
avec douceur
les dinosaures, avec douceur, avec tendresse. Mais c'est pas encore facile. Ça viendra dans quelques décennies, on y arrivera. Mais là, on apprendra que non, pas du tout. Les dinosaures, en fait, je sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient.
Pousser les cris stridents.
Non, non, pas ce soir.
Ah, bon.
Non. Voilà, les bébés dinosaures.
Frotter leurs pattes avant.
Oui, ça va, c'est pas trop dérangeant. Ou taper du pied avec fureur. Mais là, attention, le voisin.
S'il y a une cave ici, on va s'y retrouver. Note, depuis assez longtemps, on a touché le fond et on l'a allègrement traversé au bébé dinosaure. On vous rappelle que notre thème, c'est les rocks des années 70, le plus décadent qui soit, de 1968 jusqu'à 1976, parce qu'après, ça devient trop vigoureux, quoi.
Voilà. Quelques morceaux de bon goût, de temps en temps, quand même.
Ouais.
Quelques-uns.
Par hasard.
C'est un peu comme le...
Passe voilà, par les mailles du filet, là.
La petite fraise qui surnage dans le yaourt. Mais bon.
Ok, bah écoute, ce soir, j'ai amené pas mal de morceaux qui m'ont été inspirés par le fait que je suis allé voir, je suis au cinéma et je suis allé voir Once Upon a Time in Hollywood, le dernier Tarantino. Et bien sûr, il y a une bande sonore, plein de morceaux très entraînants. 60s, mais parce que le film se passe en 69, mais 70s dans notre sens, parce que beaucoup sont de 68, voire début 69. Et on va commencer avec un morceau qui est sorti début 69 et qui passe sur la radio d'une des bagnoles, d'une des belles bagnoles. Non, pas toujours belles bagnoles, parce qu'en fait, il y a un des personnages qui a une vieille Volkswagen pourrie, qui parcourt en tous sens les autoroutes de Los Angeles et de Hollywood, surtout dans ce film, Bob Seger. Rambling Gambling Man, ouais, le titre du premier album du Bob Seger System.
Hop là. Oh, on se l'écouterait bien entier, mais bon. Génial. Donc, toi, ton fil rouge, ce sera la bande-son du film de Tarantino. Et moi, mon fil rouge, ce sera Woodstock. Je continue à fêter le 50e anniversaire. Et on va remonter dans le temps. On va reprendre le fil du festival, mais à l'envers. Mmh. On avait écouté du Hendrix il y a 15 jours, on avait écouté, qui avait conclu le festival. On avait écouté du Shanana, qui était juste avant Hendrix. Et bien maintenant, on va s'écouter Paul Butterfield. Alors, j'avais parlé de ces nombreuses éditions du festival, complétées au fur et à mesure, des coffrets 4 CD, des coffrets 12 CD. Et bien maintenant, ça y est, hein, l'intégrale est sortie. La compilation ultime de Woodstock est sortie cette année, là, juste pour l'anniversaire, chez Rhino Records. Je crois qu'il y a 37 CD. Et il y a l'intégrale du concert, sauf 3 morceaux, si j'ai bien compris. Un de Shanana qui n'a pas été enregistré, et 2 de Hendrix qui auraient été bloqués pour des histoires de droits, enfin une histoire louche encore avec les ayants droit d'Hendrix. Mais sinon, vous avez tous les morceaux qui ont été chantés et joués lors du festival. Sur 37 CD, ça coûte une fortune, semble-t-il. Ils en ont sorti une édition limitée, avec je sais plus un nombre de CD, je sais pas, peut-être 7 ou 8, enfin j'ai oublié, qui reprend aussi la chronologie du festival, mais avec simplement quelques morceaux par artiste. Et donc, en fouinant un peu avec tout ça, avec aussi le fait que certains de ces groupes avaient sorti leur concert Woodstock d'une manière ou d'une autre, soit pirate, soit officiel, tu peux arriver à te reconstituer quasiment le festival en entier sans être obligé d'acheter cet énorme coffret. Donc c'est ce que je suis en train de faire, en travaillant durement à vrai dire. Et là on va s'écouter Paul Butterfield, le Paul Butterfield Blues Band qui jouait juste avant Shanana, donc c'était le lundi 18, dernier jour du festival, à 6h du matin. Alors lui, son intégral Woodstock est sorti sur un coffret où il y a plusieurs CD là aussi.
Le 18 août, c'est ça ?
À 18 août, oui. Ouais. Il y a plusieurs CD qui rassemblent une bonne partie de sa discographie, plus des concerts et notamment le concert Woodstock en entier. Après, c'est beaucoup de blues assez lent quand même. Après, il était venu avec une super formation, des cuivres, etc. Donc ça fait un peu big band. Malheureusement, il ne joue de l'harmonica que je crois sur 2 morceaux. C'est un harmoniciste de génie, Paul Butterfield. Mais là, il avait décidé de chanter essentiellement. Donc, le concert est pas... pour les fans de blues, je pense que ça le fait, quoi. Mais après, c'est pas totalement extraordinaire. Mais avec certains morceaux quand même marquants. Le fameux Love March qui était sur l'album officiel de Woodstock. Et puis, Everything Gonna Be Alright, là, qu'on s'écoutera un jour ou l'autre. Et le morceau No Amount of Loving, un morceau assez rampant et venimeux que j'aime bien. Paul Butterfield, donc live à Woodstock, le 18 août 1969. Butterfield Blues Band à Woodstock. Alors évidemment, dans ces enregistrements, parfois il y a des petits soucis techniques. Et là, c'était la voix qui était un petit peu mal enregistrée. C'est le seul morceau où on entend un petit peu moins bien la voix. Mais ce sont ceux, quand même, je trouve, qui sont les plus hargneux de son concert cette nuit-là à Woodstock.
Eh bien, on va s'écouter les Mamas et les Papas avec un morceau qui est sorti sur un album de 68, mais qui avait été enregistré avant, en 67. Mais alors, c'est compliqué. Il avait été enregistré avant. Le groupe avait éclaté temporairement, comme ça arrivait souvent, à cause d'une désincartade de Michelle Phillips, la femme de John Phillips, qui couchait avec la moitié de Los Angeles. Bon, et c'est peut-être l'incartade où elle a été avec l'autre membre du groupe dont Mamaka s'était amoureuse. Et en tout cas, ils se sont remis ensemble et puis ça a répété. Mais donc entre le moment, donc il y a eu une interruption du groupe. Et la chanson est sortie en single parce qu'elle était pour le prochain album. Le prochain album ne se faisait pas à cause du fait que le groupe s'était arrêté. Mais la compagnie de disques avait ça et hop, ils l'ont sorti. Et puis finalement, le groupe s'est remis ensemble. Ils ont fait le prochain album qui s'est appelé The Papas and the Mamas. Alors, il ne faut pas se tromper hein, avec les titres des albums de Mamas et Papas, c'est pas facile. Et ils l'ont remis dessus. Et c'était 68. Et on considère que c'est un peu la dernière grande chanson des Mamas and the Papas parce que le reste de l'album est un truc assez sombre. C'est John Phillips qui écrivait les chansons et là, je crois qu'il en avait un peu assez.
C'est psychédélique aussi.
Oui, psychédélique, paraît-il. Ouais, je le connais mal, je ne connais pas cet album.
Il faudrait que là, je l'ai. Bon, ouais. c'est pas... C'est pas, il n'y a pas autant de tubes pop flamboyants que sur les albums précédents, mais c'est intéressant quand
les
même.
Les critiques, ils voient sur un morceau une influence de Hendrix, par exemple, ce qui est un peu surprenant pour les Mamas and the Papas. Et là, on va s'écouter la chanson qui est du standard Mamas and the Papas, qui se trouve dans la bande du film de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, dont un des sujets qu'ont moins souligné les critiques, c'est bien sûr le meurtre de Sharon Tate par la Manson Family. Ce morceau s'appelle 1230, mais il est beaucoup plus connu par son refrain qui est « Young girls are coming to the canyon ».
Et ce seraient les young girls de la famille Manson ?
Ah ben ça, que dans le film, c'est totalement évident.
Mais dans la chanson ?
Ah non, dans la chanson, non, ça n'a rien à voir. C'était fait bien avant. Déjà, c'était fait bien avant. Et donc c'est Tarantino qui a fait un collage, qui a fait un clin d'œil. Mais on dit que la chanson écrite par John Phillips en 66 ou 7 fait allusion à Laurel Canyon, donc pas aux Hollywood Hills où vivait Sharon Tate. Hein, et à Laurel Canyon, où bien sûr, il y avait beaucoup de musiciens et il y avait des groupies qui venaient. Mais lui, à l'époque, il était encore pas connu et impécunieux, il les voyait juste passer.
Voilà, ça va être un peu frustrant. Ouais.
Bien. Bon, enfin, puis attends, il était marié avec Michelle Phillips, qui, etc.
Alors, lui, il était fidèle, peut-être.
On peut supposer, on ne sait pas.
Les Mamas and Papas. I used to live in New York City. Everything there was dark and dirty. Outside my window was a steeple with a clock that always said 12:30. Thank you. Mamas and Papas.
Young girls are coming to the canyon.
Et ben maintenant on va s'écouter un petit Roy Cooder que nous a amené Jean-François.
Aha.
Alors c'est Jesus on the Main Line.
Ah ouais.
C'est
ouais.
Classique, mais dans une version live là par contre.
Ah oui, dans son album en concert des années 70.
Voilà, c'est l'album Showtime, 76.
Alors, est-ce qu'on a Jean-François on the Main Line? Non, non, non.
Non, je suis voilà. Sa voix ce soir, je parle pour lui.
D'accord.
Il me fait des signes si j'ai quelque chose à rajouter.
Non, mais...
Non, c'est bon, je peux.
Jean-François, il est comme Jésus, on le fait beaucoup parler, mais on l'entend rarement.
Il multiplie le vin aussi.
Ouais, que t'as peut-être s'il pouvait multiplier les bières.
Roy Cooder donc.
Mm-hmm.
that's a home of me. Tell him what you want, but Jesus on the main line. Tell him what do you want, Jesus on the main line. Tell him what you want, you can call him up and tell him what you want, what you want.
De Mainline, Roy Cooder live en 76.
Enfin, t'as oublié un truc important. T'as pas donné le numéro pour appeler Jésus là.
Oh, mais je compte sur toi.
Mais je cherche, j'ai pas encore trouvé.
Je crois que la ligne est occupée depuis bien longtemps. Mm. Eh bien, je reviens à Woodstock. Alors, tout à l'heure, on parlait du film de Tarantino et de l'assassinat de Sharon Tate, de la famille Manson, qui donc c'est un des sujet du film, bah, c'était juste avant Woodstock en fait. Hein.
Ça s'est déroulé dans la nuit du 8 au 9 août 1969, donc 10 jours avant Woodstock. Ouais.
10 jours avant Woodstock, oui. Ouais. Donc Woodstock, c'est vrai que c'est vraiment le dernier éclat de la nation hippie, le dernier moment de je sais pas comment dire, de grâce. Parce qu'après, il y aura Altamont en septembre, et là, Altamont, c'est pareil, hein, c'était pas la joie. Quoi. Enfin bon, et là, on recule toujours, on remonte le temps. Avant Paul Butterfield, il y avait Crosby, Stills, Nash & Young. Alors, ils avaient démarré carrément à 3h du matin, ce qui n'était pas un cadeau. Et je crois que c'était, enfin, c'est ce que dit à un moment un des musiciens, c'était leur deuxième concert. Et donc ils étaient terrifiés.
Alors, le deuxième concert avec Young, je suppose, parce que.
Je suppose.
Crosby, Stills & Nash.
Ils n'existaient pas depuis très longtemps quand même.
Ils avaient déjà fait un disque quand même.
Ils avaient fait un disque qui est sorti pas très longtemps avant le concert, et dont ils jouent pas mal d'extraits bien sûr. Et voilà, je pense qu'effectivement ils voulaient dire que c'était le deuxième concert avec Young. Enfin, en tout cas, ils avaient l'air un peu d'être dans leurs petits souliers là, avant de monter sur scène. Et c'est quand même un des grands moments de Woodstock. Le concert entier est génial, hein. Enfin, de tout ce que j'ai pu récupérer. La partie acoustique est magnifique, les voix notamment, c'est impressionnant. À 3h du matin, devant 300 000 personnes, après, j'imagine, connaissant Crosby et Stills, avoir ingurgité pas mal de produits divers et variés, il faut le faire quand même. Et la partie électrique où Neil Young intervient, et... enfin il joue un morceau acoustique aussi avec Stephen Stills, puis ensuite il participe à la partie plus électrique qui clôt le concert, c'est très très bon aussi. Et en grattant un peu avec toutes ces compiles là dont je vous ai parlé, alors je ne parle pas du coffret bien sûr de Rhino dans lequel il y a tout le concert, mais en grattant un peu on arrive à retrouver presque tout le concert, sauf trois morceaux qui sont eux, il existe un site... sur Wikipédia consacré Woodstock où tu as donc tous les musiciens, tous les groupes qui ont joué, et pour chaque groupe la setlist complète, des anecdotes, les membres du groupe, etc. Et où peut-on trouver les morceaux?
Ah ouais.
Sur quel disque, il hein, n'y a rien d'illégal, hein, sur YouTube, c'est les deux sources essentielles. Alors après je pense que maintenant ils pourront dire bon, ben, de toute façon tout est dans le coffret Rhino, ils vont plus se faire chier. En fait, c'est un travail énorme qui a été fait par des fans, quoi. Et donc j'ai pu récupérer un morceau par exemple sur YouTube grâce à leurs conseils, et j'ai récupéré presque tout le concert sauf trois morceaux, et c'est vraiment génial ce concert de Crosby, Stills, Nash & Young à Woodstock. Et on s'écoute un des morceaux de la partie électrique, Long Time Gone. Par contre, quand on récupère ces morceaux de droite et à gauche, le son n'est pas toujours parfait. Hein. Je vous préviens d'entrée. Long Time Gone, donc, Crosby, Stills, Nash & Young, à Woodstock. Little tears to be
Yes, it does appear to be a love. You know what the hurt appears to be a love. Time, such a long, long time before the
there to be a love.
Voilà, il était pas tout seul, hein. Il y avait Stills, Nash & Young aussi.
Voilà, mais c'est lui qui a écrit cette chanson là, je crois.
Oui, sur le premier album de Crosby, Stills & Nash, sorti juste avant Woodstock, même année en tout cas. C'était donc le morceau Long Time Gone à Woodstock.
Eh bien, on revient à Once Upon a Time in Hollywood et la nuit du 8 août. Les filles sont arrivées dans le canyon ou sur la colline plutôt, c'est bien sûr la Manson Family, et on sait qu'il va y avoir du baston parce qu'un film de Tarantino, il n'y a pas de baston, c'est pas un film de Tarantino. Et quand il va y avoir du baston, Tarantino nous balance du psychédélique un peu lourd dans les oreilles, à savoir Vanilla Fudge. Alors ce morceau est de 67, mais j'ai vu qu'on a déjà passé deux fois sur Bébé Dinosaure au cours des années. Et
c'est pas moi.
Oui, oui, non, mais attends, Vanilla Fudge, ça donnait le la pour une bonne partie du rock des années 70. Oui. Les morceaux beaucoup trop longs, plein de solos infâmes,
et puis,
avec de l'orgue dans tous les coins.
C'est joué avec un volume sonore assourdissant. Ah, ça a été beaucoup inspiré Hendrix, notamment.
Et Mountain aussi, je pense, parce qu'ils étaient du même coin de Long Island. Et Vanilla Fudge a été parmi les gens qui ont, participer à l'invention du hard rock quelque part. Et ils ont beaucoup influencé aussi la première formule de Deep Purple, il faut le dire.
Oui, eh ben oui, parce que bon, faut dire que Vanilla Fudge, bon, c'est un groupe légendaire, mais après à écouter, c'est un peu plus rude quand même. Hein.
Eh ouais, voilà. Et alors justement, ouais, ouais. Ce genre de choses qui te met un peu sur les nerfs, c'est parfait pour les scènes de bagarre. Enfin, en tout cas, dans les films de Tarantino. En tout, You Keep Me Hanging On, c'est une chanson de la Motown. Popularisée par les Supremes, reprise par Vanilla Fudge dans une version à la Vanilla Fudge.
Avec plein d'orgue, j'imagine. Là, voilà, je traduis Tommy Boy opine d'un air désolé.
Mon
vous êtes prévenu. We'll be right back.
I can do about it.
Le petit intermède là, hein.
Ouais,
pas poussé, quand même.
Le côté musique, le cirque. You Keep Me Hanging On, la version totalement psychédélique de Vanilla Fudge en 1967.
Il y a quelque chose quand même, il y a quelque chose. Le côté grandiloquent, là, tragique. Ah, la batterie de Carmine Appice.
Ouais, les interventions de guitare, tu vois. Ouais,
l'orgue un peu, bon, envahissant. Mais...
Non, c'était quelque chose, Vanilla Fudge. Ils étaient meilleurs sur, leur, sur les reprises que sur leurs morceaux à eux, mais ils ont créé quelque chose.
Eh bien, maintenant, alors, des gens beaucoup moins connus, Léviathan, c'est Jean-François qui nous a trouvé ça, décrit, attention, comme un mélange entre Deep Purple et Uriah Heep.
Oh là.
Oh là là. Tout le monde sait que Deep Purple a tout pompé sur Uriah Heep, alors évidemment... de Little Rock, Arkansas, comme dirait Mishka Asayas. De Little Rock, Arkansas, à Memphis. Et Memphis, c'était un mélange des deux.
Mais Leviathan, et je pense qu'on les trouve sur une des compiles, soit Brown Acid, soit Ultimate Bonehead, ça me dit quelque chose ce nom.
Leviathan.
Ouais, ouais.
Voilà, deux albums apparemment. Et là, c'est un single de 1974, mais qui apparemment figure sur leur premier album. Et qui le morceau s'appelle Angel of Death.
Gone, and your tin cans are crying. Sit by my qui jambe dans le lit. Il faut que même l'âge qui d'ambre. Mais le jeu qui l'a eu le sang. Il s'était son effet dans le lit. Mais le jeu va y se trop s'il se fait.
Le Yak-Ti-Yak des Shanana il y a 15 jours, je crois. Et bien sûr, voici le Yak-Ti-Yak d'Au Bonheur des Dames, la réponse un peu franchouillarde au Shanana, mais en plus rigolo quand même, quelque part.
Ah, quand je l'ai emmené sur ma Vespa, elle m'a dit le plus beau des gars.
Oh, ça, c'est de la poésie. Voilà. Adaptation d'Eddie Critchell, c'était souvent lui qui signait les adaptations. Et ma foi, il avait un certain talent pour ça.
Bon. Allez, tu vas me passer le CD1.
Oui.
Et puis, chute.
Alors là, je traduis.
Ça fait partie des morceaux.
Ça, c'est du Deep Purple.
Oui, voilà. Ça fait partie des morceaux qu'on entend sur les autoradios dans Once Upon a Time in Hollywood.
La bonne excuse.
quicksand. Only took one touch of her hand. Blow my mind and I'm in so deep that I can't eat y'all but I can't sleep. Just say now, hush, hush. Thought I heard her calling my name. Now, hush, hush. I need the loving and I'm not to blame. Now, you got to hurt in the morning. You got to late in the evening. Oh, I need it. Hey, I gotta head in.
Moins de deux morceaux de Deep Purple dans la bande-son du film de Tarantino, si j'ai bien compris.
Effectivement, il y en a un autre qui est aussi une reprise, parce que ça, c'était une reprise de Joe South, si je me souviens bien, Hush, qui a été le premier tube de Deep Purple et qui a dû même avoir plus de succès que l'original. Et puis, on entend aussi brièvement un petit bout de Kentucky Woman par Deep Purple. Alors j'étais surpris parce que c'était un morceau du deuxième album, mais en fait au début ils étaient très rapides, Deep Purple, et les deux premiers albums qu'ils ont faits, ce sont tous les deux... Tous les deux étaient faits en 68 ou pour le deuxième peut-être tout début 69. C'est sorti très vite. Et le troisième aussi, puisque finalement, dans l'été 69, il y a eu deux tragédies. Il y a eu le meurtre de Sharon Tate et puis Ian Gillan a été embauché comme chanteur de Deep Purple.
Oh, disons qu'au début, ça a quand même...
Si, ça a mis,
ça les a boostés,
ça a mis un peu plus de peps. Disons, ça faisait partie d'un plan de Blackmore pour passer à du rock un peu plus proche de Led Zeppelin que la formule précédente qui était un peu plus proche de Vanilla Fudge. Voilà.
Un peu plus progressive, quoi. Eh bien, on va s'écouter maintenant des gens beaucoup plus obscurs, à nouveau apportés par Jean-François. C'est la Dedas. Des Néo-Zélandais qui venaient de Te Atatu. Et qui ont sévi entre 66 et 73, semble-t-il. Classé garage rock sur Discog. Il faudra explorer ça. Après, les classifications Discog sont un peu aléatoires, quand même, faut bien l'avouer. Et là, on va s'écouter un morceau, c'est une reprise de All Along the Watchtower, sorti en 71, et qui figure sur une compile, enregistrée en 71, semble-t-il, et sorti sur une compile un petit peu plus tard, en 75. Donc le groupe La Dedas, c'est écrit L-A-D-E-D-A-S. En trois mots, hein, c'est ça? Apparemment, oui. Des Néo-Zélandais, donc. Alors, attends, faut que je trouve le bon bouton quand même. Là. C'est par là.
Oh, some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, flowerman dig my earth. None of them are along the line, no one in here bit is worth. We'll be right back.
On fait durer.
Ça tire un peu la ligne, effectivement. C'était All Along the Watchtower par un groupe néo-zélandais, l'Adidas, en 71. Et bien moi, j'ai ressorti mon disque dédicacé par Eddie Critchell, le dernier album, je pense, en date de Au Bonheur des Dames, Place aux Jeunes, sorti il y a déjà 2-3 ans, avec la version grande, le grand et le petit. En fait, c'est un CD aussi, mais dans une pochette format vinyle. C'était l'astuce, quoi. Tout le monde se jette dessus en pensant que c'est un vinyle, mais pas du tout. Non, au milieu de la pochette, un petit CD qui est calé. Et on va s'écouter. Alors, il y a beaucoup d'originaux maintenant hein, dans les albums de Bonheur des Dames, en tout cas dans celui-là. Une seule reprise dont on reparlera, un de ces quatre. Et pas mal de morceaux signés Fabrice Desdieux, le guitariste qui a joué avec Odeur notamment, et qui joue avec Bonheur des Dames depuis déjà bien longtemps. En voici un qui s'appelle Ça crache des watts. Alors attention, c'est Manchdi. Oh là là,
attends, c'est Manchdi, c'est Fogarty.
C'est Fogarty.
Mais non, c'est dimanche, c'est Creedence.
Ah ouais, mais non, mais là c'est Fogarty.
Ah bah d'accord.
Enfin, en tout cas, vous allez l'entendre. Enfin, c'est Creedence un peu aussi. Vous allez l'entendre de manière très subliminale. Alors, je vous lis le petit texte d'avertissement lié à ce morceau. Ça crache des watts. Attention, ce morceau contient une substance hallucinogène par laquelle vous risquez d'entendre Little Richard, Elvis Presley, James Brown, John Fogerty, Jerry Lee Lewis, Paul McCartney et Eddie Cochrane. Ouiou. Ne consultez pas si persistance, vous vous y ferez. Bah, effectivement, on entend des trucs bizarres dans ce morceau, mais je vous demande aussi d'écouter les paroles avec attention parce que c'est quand même une grande poésie. Ça crache des watts donc, Au Bonheur des Dames, leur dernier album.
Comme une envie montée, je prends mon blouson et mes clés, je descends la retrouver. Elle a mis ses dessous de chrome pour titiller mes chromosomes. Je lui caresse lentement le cuir, je sens qu'elle commence à frémir. Et c'est parti! Qu'elle me fait? Ah, j'en prends sur le coup de la panne d'essence quand même. Ah, c'est ça, j'ai compris. Tu veux que je te pousse par derrière? Tu vas voir ça, moi je vais te faire le plein. Je sais que cette petite Allemande est une sacrée grosse gourmande. Elle me coûte un paquet d'oseille, mais je ne peux pas me passer d'elle. Et c'est pas... Yeah.
mais tu veux que je te pousse par derrière,
ouais. Je vais te faire le plein.
Tu vas voir, je vais te faire le plein. Et voilà, au bonheur des dames.
Ils n'ont pas précisé la marque de voiture que c'était.
C'est une allemande, en tout cas, visiblement. Ouais.
Mais, écoute, on va s'écouter des gens qui sont un peu, quelque part, des ancêtres, font partie, disons, des ancêtres moraux des au bonheur des dames, les Charlots. Les Charlots, à l'époque où ils étaient encore que des problèmes. En 66, l'album Antoine rencontre les problèmes, qui est à peu près intégralement écrit par Rinaldi et ses collègues, et dans lequel il y a Antoine qui chante de temps en temps. On va s'écouter un morceau qui s'appelle Dodécaphonie, et qui est assez moderne pour 66.
Sur un Back from the Grave.
Écoute, les breaks sont visiblement à peu près empruntés au Who. Mélange de guitare, là, d'accords de guitare prolongés et de batterie complètement déchaînée. Et là, bon, bien sûr, les paroles, c'est du Charlot, mais avec un côté quand même surprenant dans la musique. Mais dis-moi, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu cette mélodie. Et je me demande si ce truc n'a pas été repris et détourné dans une des compiles Wiz.
Ah,
ça me dit quelque chose.
Je trouvais que ça faisait, c'était tout à fait l'ambiance. Effectivement.
Ouais, ouais.
Et bien, vérifier. Ouais.
Il faudra vérifier. J'ai
ou
pas
repris
eu le temps de le
peut-être.
Faire.
Ouais.
Et je pense pas qu'ils aient jamais mis Antoine et les problèmes sur explicitement sur une des compiles. Mais ils ont peut-être, il y a peut-être un morceau qui reprend cette chanson.
Ouais, oui. Voilà, ou quelqu'un qui, un artiste qui reprend Antoine et les problèmes. Cela dit, là, c'était Rinaldi qui chantait, a priori.
Je pense, oui. Ouais.
Et ben voilà, toujours surprenant, les Charlots, ou les problèmes, là, en l'occurrence. Bon, je termine mon exploration de Woodstock pour ce soir, hein, rassurez-vous. Et puis, comme on fait en reculant dans le temps, bon, on va pas y échapper. Juste avant Crosby, Stills, Nash & Young, et ben, c'était Blood, Sweat & Tears.
Oula.
Alors là aussi j'ai chopé l'intégrale hein, qui figure, je sais plus, sur une coffret qui leur est dédié, enfin je sais plus trop. J'ai gardé deux morceaux hein, parce que bon, franchement c'est pas, c'est surtout que les morceaux sont très très longs et Et les deux morceaux que j'ai gardés sont parmi les plus courts, à vrai dire. Mais bon, ça se défend quand même. Alors, Blood, Sweat and Tears a eu quand même un certain succès, mais c'est vrai que ça, c'était assez convenu comme musique. Et un peu ambitieux, et des fois un peu chiant. Et ce sont, notamment les musiciens du groupe, ont toujours dit que ce concert à Woodstock était une catastrophe. Notamment parce que le chanteur était out of key. Du début à la fin, tu t'en rends pas compte, hein. Enfin, moi, ça m'a pas choqué. Mais donc, ils sont tous là à se lamenter. Ouais, jamais ça aurait dû. On aurait dû brûler les bandes et tout. Enfin, bon, bref. Mais ça circule quand même. Donc, on va s'écouter un extrait de ce concert de Blood, Sweat and Tears. Ils avaient démarré, eux, à 1h30 le lundi 18 août 1969. Et on va s'écouter le morceau More and More. Donc, Blood, Sweat and Tears.
Ladies and gentlemen, please welcome with us Blood, Sweat and Tears.
Like medicine, baby, you're good for me. Like honey, darling, yeah, I know you're sweet to me. Each passing day brings us much closer together. The love you give me, darling, just gets better and better. That's why I'm in love for you. Keep on growing more and more all the time. More and more all the time. Oh, yeah. Got to say it again. Like a ship that's drifting, baby, you're apart from me. Like an old man time, you control my destiny. If from my life you ever decide to go, it would destroy the second what took a lifetime to mold. That's why I'm in love for you. Keep on growing, more and more, all the time. More and more, all the time. Look out. Hey, girl, come on, get on it.
Eh bien, c'était Blood, Sweat and Tears avec Al Cooper, je suppose, qui était encore dans la bande à cette époque-là. À Woodstock, en 69, fatigué et néanmoins plein de, comment dire, de bruit de fureur. Vous écoutez... Alors, Sylvain fait des remarques que je ne peux pas entendre. Vous écoutez les Bébés Dinosaures, vous êtes sur Canal Sud 92.2 MHz. Il va être bientôt 23h et donc il faut peut-être dans l'urgence faire les rubriques pour lesquelles nous sommes bien connus. La première est tournée d'un jingle qu'on va essayer de... Oui, voilà. C'est... aussi connu comme le jingle de la mort qui tue.
Yeah.
Et donc la rubrique des Kings ce soir avec un morceau tiré de The Great Lost Kings, l'album sorti, The Great Lost Kings album ça s'appelait d'ailleurs, sorti au début des années 70 avec tout un tas de morceaux, beaucoup de Dave Davis qui avaient été enregistrés puis qui n'étaient pas sortis ou étaient sortis seulement en single pour un ou deux d'entre eux. Et qui album qui est redisparu des bacs assez vite, malheureusement. Je pense qu'on doit pouvoir retrouver des versions de ça sur les rééditions des CD en CD des albums de Kings, mais par petits bouts. Donc on va s'écouter Mr. Songbird, une chanson des Kings qui n'a pas connu le sort qu'elle aurait peut-être dû connaître parce qu'elle est, ma foi, tout à fait agréable.
Won't you sing me a song or two? Won't take it long to do. Sing to me, please. Won't you whistle a tune? I got nothing to gain, I got nothing to lose. But if you sing me a song, you make me happy.
Mr. Songbird, les Kings, donc un morceau qui n'est sorti que sur un album de rareté, The Great Lost Kings album. Bon, il y avait le jingle de la mort qui tue, et puis il y a le jingle de la mort qui est morte. Enfin, le jingle du fromage qui pue. La Bretagne n'est pas connue pour ses fromages, mais l'Aveyron, si. Et notre rubrique fromage de chèvre, comme toujours, même si le Roquefort est un fromage de brebis, on va se la faire ce soir avec Buffy St. Mary. Donc Buffy St. Mary était canadienne, probablement d'origine amérindienne, je connais pas le détail de sa bio, il faudra que je vérifie. Et elle avait son nom, c'était une sorte de, comment dire, un petit peu le même créneau que John Baez du folk song, avec une très belle voix. Et à la fin des années 60, elle a fait quelques albums qui ont été remarqués et qui ont bien marché à l'époque. Elle venait du Saskatchewan, comme Joni Mitchell. Et on va se l'écouter reprenant une chanson de Joni Mitchell. D'ailleurs, bon, j'ai écouté quelques extraits de l'album dont c'est tiré, qui est un de ses premiers albums, sorti en 67, qui s'appelle Fire and Candlelight ou quelque chose comme ça. Et C'est un petit côté de Joni Mitchell quand même. Ça, il y a une parenté de style, du moins dans les débuts de Buffy St. Mary et des débuts de Joni Mitchell. Et là, elle reprend carrément une chanson de Joni Mitchell qui figure comme beaucoup d'autres dans la bande son du film Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. C'est une de ces chansons qu'on entend. C'est quand Sharon Tate est dans sa voiture, si je me souviens bien, et qu'elle écoute la radio, donc elle écoute des choses un peu moins rugueuses que Cliff, le personnage de Cascadeur, qui lui écoute Deep Purple et Bob Seger. Là non, c'est Buffy St. Mary reprenant The Circle Game, une grande chanson de Joni Mitchell. Ah oui, quand on tourne en rond, on s'arrête jamais. Buffy St. Mary avec sa reprise de Circle Game en 67. Ça va être le dernier morceau qu'on va se passer ce soir, parce qu'il faut le dire, on a fini l'émission. On vous rappelle quand même que c'était les Baby Dinosaures sur Canal Sud 92.2 MHz, mais ça c'est à Toulouse 92.2 MHz si vous utilisez votre radio, et si vous utilisez internet vous pouvez le faire partout dans le monde et pas seulement à Toulouse, et partout dans le monde vous pouvez vous connecter sur les www.canalsud.net qui est le site magnifique de notre radio sur lequel vous avez une fonction de streaming, un player ou je sais pas comment il faut le dire, une fonction d'écoute en direct qu'on peut mettre en marche en cliquant sur le bon truc. C'est marqué, écoutez-nous en direct, et là, votre ordinateur vous crachera le son de Canal Sud. Mais bien sûr, c'est en direct. Et là, par exemple, si vous essayez de commencer d'écouter notre émission, ben vous êtes feinté parce qu'elle est finie. Mais ne vous inquiétez pas parce que l'émission est quand même rediffusée dans 8 jours, lundi de 15h30 à 17h sur les mêmes 92.2 MHz ou www.canalsud.net de Canal Sud. Donc il y a un espoir, vous reste. Un autre espoir, c'est qu'on stocke les MP3 de l'émission sur le site de la radio et aussi même sur une page Facebook qui s'appelle Les Bébés Dinosaures. Et tout ça, ça vous permet de récupérer et de streamer ou de copier même pour vous si vous voulez, on vous empêche pas, les archives de notre émission. Il y a environ 400 émissions qui sont stockées là-dessus. Donc vous avez de quoi devenir totalement fou, mais on ne veut pas mettre en faillite la sécurité sociale, donc on vous demande d'arrêter au bout d'une quantité raisonnable, hein, voilà. Bon, sinon, ce soir quand même, on a dit que c'était fini, c'est fini, c'est vraiment fini, on s'en va, on vous retrouvera la semaine prochaine, dimanche à 21h30.
Never really go.
No.
Never really go.
He's back.
Never really.